Chapitre 3 et 4. La méchanceté de la nature humaine. Dans le chapitre 2, l'apôtre a placé devant nous divers critères par lesquels nous pouvons éprouver la réalité de la foi chez ceux qui prétendent l'avoir. Dans les chapitres 3 et 4, nous sommes mis en garde contre sept formes différentes de mal qui caractérisent la profession chrétienne et dans lesquelles tout croyant, sans la grâce, est capable de tomber. Premièrement, la langue indomptée, chapitre 3, versets 1 à 12. Deuxièmement, la jalousie et l'esprit de querelle, chapitre 3, versets 13 à 18. Troisièmement, les passions non contrôlées, chapitre 4, versets 1 à 3. Quatrièmement, l'amitié du monde, chapitre 4, verset 4. Cinquièmement, l'orgueil de la chair, chapitre 4, versets 5 à 10. Sixièmement, la médisance, chapitre 4, versets 11 et 12. Septièmement, la volonté propre et la confiance en soi, chapitre 4, versets 13 à 17. Versets 1 à 12, la langue indomptée. Citation de l'Écriture. Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère, car nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Voici, nous mettons les mors des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons çà et là leur corps tout entier. Voici, les navires aussi, qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés çà et là par un très petit gouvernail, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi aussi, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est établie parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et est enflammée par la géhenne. Car toute espèce de bête sauvage et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se dompte ou a été domptée par l'espèce humaine. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procèdent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Fin de citation. L'apôtre introduit ses avertissements au sujet des méfaits de la langue en nous exhortant à ne pas être beaucoup de docteurs. Il ne parle pas du bon usage du don d'enseigner, Romains 12, verset 7, mais de la tendance de la nature humaine à vouloir enseigner les autres et de son désir d'avoir un rôle dans le ministère. Ce penchant peut se trouver en chacun, doué ou non. Même là où le don d'enseigner existe, la chair, en celui qui la laisse agir, peut s'en servir pour nourrir sa propre vanité. Mais, indépendamment de la possession d'un don, nous sommes tous en danger de vouloir enseigner aux autres ce qui est bon et d'oublier que nous-mêmes sommes capables de faillir dans les choses mêmes contre lesquelles nous les mettons en garde. On a dit « Il est plus facile d'enseigner les autres que de se gouverner soi-même. » Et encore, l'humilité dans le cœur rend lent à parler. Enseigner les autres, tout en manquant soi-même, ne fait qu'augmenter notre culpabilité. Souvenons-nous donc qu'en reprenant les autres, nous pouvons être nous-mêmes coupables, car nous faillissons tous à plusieurs égards, même si parfois nous le faisons sans en avoir conscience. C'est en parole que nous manquons le plus facilement. Celui qui sait dompter sa langue sera un chrétien accompli, un homme parfait, capable de tenir aussi tout autre membre de son corps en bride. Cela conduit Jacques à nous mettre en garde au sujet de l'usage immodéré de la langue. Le mort dans la bouche du cheval est un petit objet, mais par lui nous pouvons contraindre la bête à obéir. Un gouvernail est de faible dimension, mais par lui de grands navires peuvent être contrôlés malgré des vents violents. De même, la langue est un petit membre qui peut gouverner tout le corps, pourvu que l'homme parvienne, comme un pilote, à en assurer la maîtrise. Mais si elle n'est pas tenue en bride, elle peut devenir le moyen d'exprimer la vanité de notre cœur en condamnant les autres et en nous exaltant nous-mêmes, car elle se vante de grandes choses. Elle peut ainsi devenir la source de beaucoup de mal, car bien qu'étant un petit membre seulement, elle est semblable à une allumette capable de détruire une forêt entière. La main et le pied peuvent, hélas, devenir des instruments pour exécuter la volonté de la chair, mais il n'est aucun de nos membres qui soit plus rapide que la langue pour manifester notre volonté, découvrir notre faiblesse et révéler l'état véritable de notre cœur. Un rien suffit pour qu'elle soit excitée par la méchanceté du cœur et qu'elle enflamme d'autres, produisant un mal infini par une seule parole vaine et méchante. L'apôtre décrit la langue comme un feu qui, non seulement engendre du trouble, mais encore l'alimente. Elle est capable de produire toute forme d'injustice et devient ainsi un monde d'iniquité. Par ses mauvaises suggestions, elle peut entraîner la souillure de chaque membre du corps et mettre en mouvement tout le cours de la nature déchue. Les mauvais esprits de l'enfer trouvent dans la langue un instrument tout prêt pour leur œuvre destructrice, de sorte qu'il peut être dit qu'elle est enflammée par la géhenne. La langue ne peut être domptée par la nature. Toute espèce de créature a été domptée par l'espèce humaine, mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal désordonné, dit Jacques, plein d'un venin mortel. Non seulement il souille le corps, mais il peut empoisonner l'esprit. On a dit très justement, la plupart de ceux qui auraient honte de frapper quelqu'un ne peuvent retenir une parole passionnée ou dure contre leur prochain. Il n'est rien de plus facile que d'empoisonner l'esprit d'un frère contre un autre par une critique irréfléchie et méchante. De plus, la langue peut être très inconséquente, car tout en étant capable de bénir Dieu, elle peut aussi maudire l'homme fait à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procèdent la bénédiction et la malédiction. C'est contraire à la nature, car aucune fontaine ne peut faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère par une même ouverture, pas plus qu'un figuier ne produit des olives, ou une vigne des figues. L'ordre divin exige qu'un objet d'une certaine nature produise toujours des fruits de la même nature. Les chrétiens, en tant que nés de Dieu et moralement participants de la nature divine, doivent dans leurs paroles et dans leurs actes être conséquents avec l'ordre selon Dieu. L'apôtre ne parle pas de la langue lorsqu'il en est fait usage par la grâce et sous le contrôle de l'esprit, mais de la langue employée sous l'influence de la chair et activée par le diable. Rien, sinon la puissance de l'esprit remplissant le cœur de la grâce de Christ, ne peut retenir la langue. Lorsque le cœur jouit de la grâce et de l'amour de Christ, la langue s'exprime en grâce de l'abondance du cœur. Versets 13 à 18. La jalousie et l'esprit de querelle. Citation de l'Écriture. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice, dans la paix, se sème pour ceux qui procurent la paix. Fin de citation. Après avoir exposé en termes incisifs les méfaits d'une langue indomptée, l'apôtre met en garde contre la jalousie et l'esprit de querelle. Dans ce contexte, il établit un contraste frappant entre l'homme sage et ceux qui nourrissent dans leur cœur la jalousie et les querelles. Celui qui est sage, ayant l'intelligence de la pensée de Dieu, le manifestera non par de la vanterie, ni même nécessairement par des paroles, mais par une bonne conduite et des bonnes œuvres faites dans la douceur qui est le résultat de la vraie sagesse. Trop souvent, la chair cherche à se mettre en avant par la vanterie et par des œuvres accomplies avec ostentation. L'homme sage n'agit pas ainsi. En contraste avec celui qui est sage, il y a ceux qui nourrissent une jalousie amère et un esprit de querelle dans leur cœur. Le mal, comme toujours, commence dans le cœur. La jalousie dans le cœur conduit à la vanterie, et cette dernière au mensonge contre la vérité. Que de fois l'envieux cherchera à cacher sa jalousie en protestant qu'il n'a pas de rancune dans son cœur, mais qu'il ne fait que résister au mal et défendre la vérité. Si, sous le prétexte de découvrir un mal et de dire à un frère toute la vérité pour son bien, nous exprimons délibérément des paroles blessantes, nous pouvons être bien certains que la méchanceté dans le cœur est derrière nos paroles offensantes. Que de fois n'a-t-on pas excusé les paroles les plus méchantes en citant « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures faites par un ami sont fidèles. » Mais saurions-nous citer les paroles qui précèdent immédiatement celles-ci ? Elles nous rendraient attentifs à ne pas user légèrement de ces versets, car la question y est posée. Qui subsistera devant la jalousie ? Proverbe 27, versets 4 à 6. Hélas, qu'il est facile de nous tromper nous-mêmes dans notre effort pour nous excuser. Qu'il est facile de justifier notre méchanceté en prétextant que nous agissons avec fidélité. La méchanceté est une mauvaise herbe qui prolifère dans notre cœur. Mais combien il est rare d'entendre quelqu'un confesser qu'il nourrit de méchants sentiments dans son cœur ou que les paroles qu'il prononce sont méchantes. La jalousie amère et l'esprit de querelle ne sont pas le produit de la sagesse d'en haut. Ce sont des manifestations terrestres, non pas célestes. Ils expriment les sentiments du vieil homme, non pas ceux du nouvel homme. Ils sont du diable, non de Dieu. En outre, souvenons-nous que la jalousie est toujours un aveu d'infériorité. Envier un homme qui a un revenu élevé, c'est reconnaître que le mien est plus petit. De même, être jaloux d'un homme possédant un don, c'est confesser que celui que j'ai est inférieur. Si la jalousie et l'esprit de querelle dans le cœur mènent à des paroles de vanterie et de mensonges pour tenter d'excuser ou de couvrir l'envie, à leur tour, la vantardise et l'hypocrisie produiront désordre et confusion, ouvrant la porte à toute espèce de mauvaises actions. Ici, donc, la cause première de toute scène de désordre qui pourrait se passer parmi les enfants de Dieu est exposée en termes clairs et exerçants. La jalousie amère et l'esprit de querelle dans le cœur, s'exprimant en paroles de vanterie et de tromperie, conduisent à du désordre et toute espèce de mauvaises actions. En contraste frappant avec les activités du vieil homme marquées par la jalousie et l'esprit de querelle, l'apôtre place devant nous, dans les derniers versets, une belle image du nouvel homme caractérisée par la sagesse qui descend d'en haut. Nous savons que Christ est en haut, assis dans la gloire, et qu'il nous a été fait sagesse de la part de Dieu. Christ est la tête du corps, et toute la sagesse de la tête est à notre disposition. On a dit très justement, il se plaît autant à être tête au croyant le plus simple qu'à l'apôtre Paul. Il a été tête et sagesse à l'apôtre, mais il est prêt à être tête et sagesse au chrétien le moins intelligent. Combien ces paroles sont vraies. Le passage qui nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde ajoute en effet immédiatement « Vous êtes de lui dans le Christ Jésus qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu. » 1 Corinthiens 1, versets 27 et 30. Hélas, ce que nous imaginons être notre propre sagesse nous empêche souvent de bénéficier de la sagesse d'en haut, la sagesse de notre tête. Quelle chose heureuse pour nous de reconnaître notre folie et de nous rejeter sur la sagesse qui est en Christ notre tête, pour découvrir qu'aussi peu intelligents que nous soyons par nature, nous recevrons une sagesse donnée pour chaque détail de notre vie et de notre service. Si nous sommes caractérisés par la sagesse d'en haut, nous ressemblerions à Christ. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Qu'est-ce, sinon une belle description de Christ quand il a traversé ce monde? La sagesse de la tête s'occupe d'abord de notre cœur. Elle nous amène à juger le mal secret, afin que nous soyons purs de cœur. Puis, dans nos relations avec les autres, elle nous enseignera à être paisibles. Elle mettra un frein à notre langue et à notre propension à la dispute, nous conduisant ainsi à chercher la paix. En recherchant celle-ci, nous nous exprimerons avec modération plutôt que selon la manière violente de la chair. Au lieu de l'agressivité de la chair, qui veut toujours s'affirmer, nous céderons aux autres, étant prêts à écouter ce qu'ils ont à dire. En outre, la sagesse d'en haut est disposée à manifester de la miséricorde plutôt que de condamner hâtivement. Elle est sans partialité et sans hypocrisie. Elle ne cherche pas à faire étalage d'une grande sagesse en soulevant des questions sans fin. Elle est caractérisée par la simplicité et la sincérité. La sagesse d'en haut produit ainsi le fruit de la justice, semée dans un esprit de paix par ceux qui cherchent à procurer la paix. La sagesse de la tête ne produira jamais ni désordre ni querelle. Celui qui est caractérisé par cette sagesse procurera la paix et, dans la condition paisible ainsi créée, il moissonnera les fruits de la justice.